corniche, on s'imagine riche. Tu t'es fait pointer en boîte.
Et donc vous êtes bien en direct dans l'émission contre les violences d'État, contre les quartiers d'isolement, contre les mitards, contre les violences pénitentiaires. Là, on est parti sur un volet sur les Comores et Mayotte, en particulier avec les violences d'État de l'État français à Mayotte, et notamment dans le cadre de l'opération Wambushu. Est-ce que tu veux nous présenter un peu c'est quoi l'opération Wambushu ?
Bon, oui, voilà. Je me présente, Madi Zirari, et je suis natif de l'île Mayotte. Et effectivement. Depuis le mois de mai, le 22 mai précisément, le gouvernement comorien, le gouvernement français a mis sur pied, en tout cas, un projet. Ce n'est pas un nouveau projet, mais c'est une continuité des mécanismes d'expulsion des ressortissants comoriens non désirés dans leur île. Parce qu'il faut bien noter cette particularité, c'est que aux Comores, à Mayotte, la France a fait en sorte que il y ait des individus qui n'ont pas de droit de cité parce qu'on ne va pas leur donner des papiers administratifs leur permettant de circuler dans les îles.
C'est ça, la moitié de la population de Mayotte.
Là, voilà, c'est une gestion humaine. Et vraiment, je ne sais pas, c'est à vous de donner la qualification, mais dans un même périmètre qui fait un ensemble des îles, qui a été consulté ou qui est indépendant, en tout cas reconnu par toutes les instances internationales, sauf que la France a pris une partie. Et a fait en sorte que les autres parties restantes, c'est elle aussi la France qui gère et en place des hommes et puis faire des en faisant ces gestions humaines là politiques, en faisant des individus non grata, des individus qui n'ont pas droit de cité, etc. Donc comment il alterne, c'est que il y a une préfecture qui est à Mayotte. Une structure je vais dire juridique ou institutionnelle. Il y a aussi l'ambassadeur de France aux Comores. Et de là, il donne le droit à qui il veut de circuler aux Comores dans les quatre îles ou pas.
Mais là où tu dis, et c'est un point très important, en fait, Wambushu, c'est pas du tout un truc nouveau, c'est en fait une continuité.
Non, mais c'est
d'une
une
politique
continuité.
Depuis
Sauf
des
que
décennies.
Cette fois-ci, ils ont prévu de le faire en masse.
C'est ça.
Voilà, c'est juste que au lieu que ça soit on oscillait entre une débarcation des navires, je crois que ça 130 ou 140 par là par traversée.
Ouais.
Il peut y avoir deux ou trois parce qu'ils ont des bateaux qui le font. Et souvent, ils arrivent à en capturer plusieurs, ou souvent, il y en a sept, ou voilà, ils alternent comme ça. Donc, ça ne faisait pas de bruit. Ça n'empêchait pas de continuer. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est connu ? Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont fait connaître à travers des réseaux, à travers les médias, tout ça, que cette fois-ci, ce sera un autre niveau parce qu'on va expulser environ combien 300 par jour.
Voilà. Mais en plus.
Plus les habits d'un ville qu'on va
raser. Et voilà. C'est ça la combinaison. La combinaison, c'est que cette fois-ci, ils vont démolir des habitations de ces gens-là.
Ouais.
Ou même de ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas expulsables,
oui.
Ils vont les loger selon leur dire.
C'est ça, ils vont.
Mais il n'est pas sûr qu'ils puissent loger ces gens-là parce que depuis, ils l'auraient fait s'ils avaient les moyens de le faire.
Oui,
mais
oui.
Ça, c'est un autre débat. Mais ce
oui,
que
on
je
reparlera
voulais,
après. Des, ouais, des
mais ce que je voulais faire comprendre, c'est que c'est un projet de longue date, mais aujourd'hui seulement, ils l'ont fait à tambour battant et ce qui
c'est
a fait
ça.
Éveiller. Voilà le peuple que c'est là où c'est un peu c'est devenu un petit peu je vais dire un projet de connaissance publique parce que les Comoriens et ceux qui sont en métropole, même ceux qui sont là-bas, se sont levés pour dire non, on n'est pas d'accord de ce projet. Par contre, le gouvernement qui est placé par le gouvernement français qui est là-bas, les hommes liges qui sont là-bas, eux, ils étaient d'accord parce que c'est leur projet qui date depuis l'an 2019. C'est-à-dire que cette gestion humaine fait qu'il y a ceux qu'on donne des papiers de circulation dans les îles, il y a ceux qu'on ne donne pas, qu'on prive de liberté, tout simplement. Ce que je voulais dire. Il y a ceux qu'on expulse, on ne leur a pas donné ni l'ambassadeur de France au Cameroun, on ne leur a pas donné des papiers administratifs leur permettant de circuler, ni le préfet de Mayotte, on ne leur a pas donné ça. Par contre, ceux de même pays, ceux de, des enjoinés, on leur donne. C'est ça, en fait, ce qu'on ne comprend pas. Mm-hmm. Nous, on est né à Marseille, ou on est né, peu importe où on soit né, mais toi, on est de même mère, même père. Toi, on va te donner des papiers te permettant de circuler et moi non. Comment on peut comprendre ça?
C'est ça. Le droit du sol n'existe plus à Mayotte.
Et juridiquement, même si c'est pas faisable, mais si, c'est faisable parce qu'ils continuent à le faire. Donc je sais pas, cet mécanisme-là, ça dépasse l'entendement et il n'y a pas de gens de droit ici pour nous dire ça.
Mais dans cette idée de continuité, par exemple, on dit souvent Wambushu, c'est un truc nouveau parce qu'ils ramènent, par exemple, ils ont ramené 500 keufs de la CRS-8, là, les policiers spécialisés dans la répression des violences urbaines. Au total, il y a 1500 policiers là en ce moment à Mayotte. Donc effectivement, il y a une sorte de mise en avant d'un truc particulier. Mais par exemple, le RAID, en fait, il était déjà sur place avant l'opération. Les unités GAO, là, groupe d'appui opérationnel, là. Ouais. Ça, c'est un truc qui existe normalement que dans la DGSI en France. Donc les renseignements intérieur, et ben en fait à Mayotte il y a un GAO pour la police aux frontières spécialement, et c'est les fameuses police basket là les opérations de décasage. Et ben ça c'est un truc en fait où ils mettent en place des pratiques d'exception, un état d'exception en fait permanent à Mayotte qui permet après de parfois mettre en place des opérations qui sont encore plus hardcore. Mais en fait ces trucs là ils le font déjà depuis des années, des décennies, et en fait il y a déjà plein de morts aux frontières depuis plein de décennies, en fait, depuis 71, et spécialement depuis les années 2000, et la mise en place du visa baladur en 95, quoi.
Tu viens de parler de décasage.
Tu parles de frontières, mais la vérité, c'est que non, il n'y a pas les Comoriens qui sont là-bas, ils ne franchissent aucune frontière. C'est juste que nous, ce que nous pouvons dire, c'est que là, normalement, c'est une question de colonisation. Et que la France a choisi aujourd'hui l'opération Mbouchou, c'est l'ampleur. C'est-à-dire que pour nous, c'est juste parce qu'il y a l'ampleur, il y a les deux choses. C'est le fait qu'on a dit on amplifie, au lieu de faire expulser, donc c'est-à-dire de déplacer des Comoriens chez eux 80 par jour, on va passer à 300, plus le fait du décasage, donc des bidonvilles. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on voit ici en métropole, par exemple? Il y a une sorte de sursaut de conscience. C'est ça ce qu'on voit. Mais eux, ils ne mettent pas en cause le fait que la France est illégale. C'est très important pour nous. La France est illégale. Il n'y a pas de frontières. Ce qu'on attend aujourd'hui, par exemple, de l'État français, c'est déjà de respecter les résolutions des Nations Unies et d'assortir un plan de paix, de concorde et de réparation. Vous vous rendez compte que comment un seul peuple, les Comoriens, c'est le même? Oui.
Vas-y, finis.
Oui. C'est-à-dire que comment un seul peuple, aujourd'hui, on a tout fait pour diviser ce peuple, et puis on dit, il y a eu un choix. Là, par exemple, j'ai un livre là, de Nicolas Ronsard, c'est un sociologue. D'ailleurs, on ne lui donne pas la parole, pourtant, il a fait un travail remarquable sur une situation post-coloniale où le gouvernement, ou Mayotte, où le gouvernement démarche. Vous voyez, gouvernement démarche, c'est parce qu'en réalité, on fait démarche. Et lui, par exemple, quand on va parler de CRA, des centres de rétention, lui, il explique très bien que déjà, quand vous, ici, vous présentez les problématiques des prisons, notamment des CRA, qu'on dit que c'est difficile, tout ça. Mais là, il explique que pour Mayotte, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est de l'exception à l'exception. C'est incroyable.
Tout est exceptionnel.
Donc, pour nous, c'est important, cette émission. De toute façon, bien entendu, il y a le fait qu'on est contre ces incarcérations partout. Mais en plus, là, on va là où on est illégal eux-mêmes. C'est-à-dire que même ils disent que voilà, il peut y avoir des frontières, tout ça. Mais là, vous allez là où vous êtes vous-même illégal.
C'est
illégaux,
ça.
Vous êtes non, illégaux.
Non, non seulement il y a la prison, mais en plus, oui. Il y a le contexte de colonisation en même temps. Ce
oui,
qui fait
tout à fait.
C'est les voilà. Prisons coloniales. Et...
Voilà, justement, pour ce qui concerne les prisonniers, en fait, la prison. Ou le prison de Majicavo. Majicavo, c'est une prison qui a une capacité de 150 personnes de détenues. Mais là, ils ont quadruplé ça, ils sont à peu près 300.
Ils sont à 600 là en ce moment.
Bah,
pendant,
600,
le, donc, pendant l'opération de Wambushu, ils sont
voilà,
à 600.
Vous voyez, ça même,
pour une capacité de 230 places.
Ouais. 130, voilà, ouais. Donc, voilà, il y a ça. Et deux, quels sont les gens qu'on a arraisonnés, qu'on a amenés en prison?
Et oui.
Vu la petitesse de la prison, même si on a capturé un certain nombre de ce qu'eux, ils considèrent des sans-papiers, des enjoanés, mais comme ils ne peuvent pas tous, les, parce qu'ils ont une orientation administrative qui est au Petit Terre, au Badamier, et puis la prison de Majicavo. Et comme ils n'ont pas une capacité assez conséquente pour contenir tout le monde, eh bien, ils choisissent. Ils choisissent ceux qui mènent les bateaux, c'est-à-dire eux, ils amènent ça les
ils appellent ça les passeurs.
Voilà, les passeurs. Et puis les autres, ils les laissent. Et puis après, ça leur permet de travailler et puis faire des chiffres. Mais ce qu'on observe ici, c'est que ces gens qui sont emprisonnés, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas même... il n'y a pas de raison de les emprisonner. Parce que il se peut que eux, souvent, ils ont des papiers hein, qui leur permettent voilà, de circuler parce que ça fait longtemps qu'ils étaient dans le pays. Souvent, ça peut être ça. Souvent, voilà. C'est des gens qu'on a dénoncés ou même on prend une personne et puis on accuse que c'était vous. Parce que finalement, on ne peut pas savoir qui c'est. Parce que souvent, comment ils font? Comment ils opèrent, c'est qu'ils mettent des jeunes moins âgés à la place du conducteur, etc. Et pour qu'enfin, c'est le jeune là à qui on a mis en place à la place du conducteur qui va être mis en prison, etc. Donc, souvent, c'est des coups fourrés comme ça. Mmh. Et puis, il y a autre.
Et puis, il y a beaucoup qui sont en fait condamnés pour vol ou ce genre de choses, en fait, qui sont liés à leur situation de misère économique. Mmh. Et qu'en fait, la situation. À Mayotte, c'est qu'il y en a beaucoup, en fait, du fait des conditions dans lesquelles on les met, ils sont dans des conditions pas possibles, où ils habitent dans des bidonvilles, etc. Et donc forcément qu'en fait, ils vont être condamnés à des choses qui sont liées à leur mode de vie
oui,
lui-même, qui est créé par l'État lui-même.
Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, le problème de Mayotte, c'est que on a créé un monde où la France, tout exceptionnel à Mayotte. Parce que là-bas, ce sont des gens... à qui on a privé leurs droits les plus élémentaires. On va emprisonner des gens du fait de leur naissance. Ils sont nés là-bas, ils sont nés aux Comores en juin ou ailleurs. Et même ceux qui sont nés à Mayotte, on ne leur donne pas des papiers. Et puis quand on les trouve à un moment donné, on va les emprisonner. C'est-à-dire qu'il y a cette problématique du droit de sol.
Et ouais.
C'est-à-dire que la France... Même son propre loi, sa propre loi ici en France, on a le droit d'être né ici en France. Et puis, il y a des mécanismes les plus élémentaires qui te permettent voilà, d'être protégé du fait de ta naissance, d'un endroit, etc.
C'est ça. Mais en fait, il y a un droit d'exception permanent à Mayotte
voilà.
Sur le droit
ça,
du sol, sur les contrôles d'identité.
On a le droit d'être né en France et d'avoir de la protection. Et c'est que le droit universitaire, le droit universel, j'allais dire, eh bien, là-bas, ce n'est pas applicable. Donc, c'est spécifiquement sur Mayotte. Donc, quand on arrive à ce stade-là, comment on peut ne pas être vraiment dans un autre monde? Parce qu'ici, apparemment, on nous dit qu'ils font ça parce que ce sont des pays colonisés ou c'est des colonies et où ce sont des barbares et ils ne sont pas civilisés, etc. Mais pour moi, ceux qui agissent et qui montrent leur barbarie, c'est l'État. C'est l'État signataire de soi-disant le droit de l'homme.
À propos des droits d'exception, en fait, il y en a un qui est essentiel, c'est celui sur la résorption, soi-disant, de l'habitat insalubre. C'est cette loi-là, la loi Elan, l'article 197, qui permet en fait les décasages, les destructions en bulldozer des bidonvilles, etc. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec Wambushu, mais en fait ça se passait aussi avant et ça va continuer à se passer. Faut dire qu'il y a eu des tirs à balles réelles fin avril, là il y a un jeune qui s'est fait tirer dessus par la police à balles réelles, et il y a aussi un ouvrier, il s'appelait Abdou Abdallah Mahdi, qui est mort mardi dernier au début de l'opération Wambushu. Il est mort mardi 23 lors de l'expulsion du bidonville Talu 2. C'est un Mahorais qui habitait le quartier, donc le bidonville lui-même, et il avait demandé, il travaillait comme ouvrier dans une entreprise de BTP, il avait demandé à ne pas participer à l'expulsion de son propre quartier, à la destruction de son propre quartier. Et ça avait été refusé par l'entreprise, donc Tetrama, donc on peut lui dire son nom. Cette entreprise a refusé de donner un congé à cette personne qui était donc employée à devoir détruire son propre quartier, et il est mort en détruisant sa propre maison.
Oui, voilà, c'est ça en fait. Ah, vous êtes au courant de ça, mais en fait, voilà. Alors, pour le droit de sol, moi, je vous assure que c'est incroyable. La spoliation qui est opérée là-bas, vous savez que la France, ça fait pas longtemps, ça fait, allez, on va dire 54 ans qu'il a commencé à s'approprier les terres. Hein, les terres qui est dévolue pour les Comoriens qui étaient là, qui jouissaient de leur vie, etc., et qui souvent sont héritiers, et que à l'époque la France était là-bas, il n'a pas mis en place des plans pour des cadastres spécifiques pour justement réglementer et puis qui permet à ce que tout le monde soit le propriétaire du terre là où il exploitait. Mais on vivait comme ça. Avant, c'était le territoire des Comores. Il y avait un plan cadastral qui, après la séparation, ils ont tout brûlé pour effacer toute trace de choses qu'on peut justifier, voilà, des appartenances. Sauf des grands ensembles qui dévolus à des gens qui étaient bien reconnus comme l'ancien président du Conseil général, Youssou Bamana, et puis Ahmed Abdallah, ils avaient acquis des terres là-bas. Parce que c'était des anciens terrains qui appartenaient à la société Bambao, société d'exploitation française, colonialiste encore. Et ça, c'est notre volet. Et à Mayotte, à un moment donné, on s'est trouvé comme moi. Je sais un exemple parce que mon grand-père avait un terrain et qu'il a exploité pendant qu'il avait hérité de son arrière-grand-père. Mais un jour, on va là-bas, on vous dit non, ici, ça appartient à l'État. Ou ça appartient... Non, c'est pas ici, c'est pas l'État, c'est plutôt la mairie. Vous allez à la mairie, non, c'est le conseil général. Vous voyez ? Donc, ils se sont octroyés des biens qui ne leur appartiennent pas. C'est comme la fameuse signature des malgaches, soi-disant, un malgache qui est venu vendre. Juste, il y a un commandant de vaisseau français qui est accosté sur la plage et qui a réuni 2, 3, 4 notables pour leur apprendre que, donc maintenant, moi, je suis propriétaire de votre terre-là, de votre île-là, parce qu'on me l'a vendue. Mais comment ça se matérialise, ça ? Est-ce que c'est faisable ? Vous imaginez un peu aujourd'hui, moi, je suis l'arrière-arrière-arrière-fils de ceux à qui on a juste annoncé de la vente d'un bien qui appartient à un autre voleur. Et puis la France, à cet égard, c'était un receleur. Donc vous imaginez que c'est impossible. Mais après, il y a eu des étapes qui ont fait que la France a dû reconnaître, parce qu'il avait signé des accords à l'époque où il avait compris que les Comores, c'est un Comore, c'est une autre chose que cette fameuse signature. Il avait même donné des statuts, il les avait accolés avec Madagascar en gestion politique, et puis il les a donné l'autonomie interne. Il y avait un président, et puis ils ont signé des accords en 1971 qui allaient jusqu'en 1973, juste la veille de l'indépendance du 22 décembre 1974. Donc tout ça, c'est... Quand on appose ça dans des papiers, on reconnaît que les fameuses signatures qui datent de 1841 sont caduques. Ça, c'est une première chose. Et deux, quand ils ont signé des accords pour aller vers le référendum, tout était clair. Mais on attend, quand on avait fini de voter, et qu'on connaît déjà les résultats, c'est là où on va prendre la décision 6 mois après que les votes qui ont eu lieu à telle date, hein, au 22 décembre 1974, on va prendre les résultats séparément, île par île. Et puis, bon, voilà, on s'accommode, on ficelle, parce que quand vous voyez, par exemple, le droit du sol, là, qui n'est pas applicable en France, mais là-bas, on spécifie les lois à Mayotte. Tout ce qu'on veut mettre à Mayotte, là-bas, c'est valable. Et même là, juste après la séparation de Mayotte dans l'ensemble des îles, on l'avait octroyé un droit spécifique qu'on appelait sui generis. C'est un droit qui n'a jamais existé dans les annales de l'État français, de la juridiction française, etc. Donc voilà un petit peu le...
essayer de recadrer ça, enfin ouais, la discussion sur les prisons spécifiquement, ouais. Mais tout ce que tu dis c'est hyper important pour comprendre en fait tout le contexte qui fait que les gens en fait qui habitent sur place, ouais, se mettent à être créés comme des étrangers aux yeux de l'État français alors qu'ils sont eux-mêmes de cette région, ouais, et que ce qui fait qu'en fait après ils se permettent une politique d'expulsion et tout ça, ouais. Et je propose qu'on écoute un enregistrement sur les centres de rétention, les locaux de rétention administrative et les expulsions, et on en rediscute un peu après.
Non, attends.
L'enregistrement numéro 2, ouais.
On nous traite vraiment comme des étrangers, tous, on nous met tous dans des paniers, dans le même panier. Il faut mettre la part des choses. Il y a les clandestins ici à Mayotte. Il y a les gens qui sont irréguliers ici à Mayotte. Il y a les délinquants ici à Mayotte. Et la police, eux, ils font rien. C'est eux qui nous donnent cette rage, c'est eux qui donnent la force aux petits de leur donner, de leur faire, de leur caillasser leur voiture ou de les blesser. Parce que si eux, ils venaient parler avec les jeunes, il n'y aurait pas ça. Mais ils ne viennent pas parler avec nous. Ils parlent avec nous comme on est des chiens. À un moment donné, ça va aller loin. Ça va aller loin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui nous écoute. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, personne ne nous écoute. À part les élus, quand ils veulent que nous, on les vote, là, on va voir. Là, ils savent où toquer. Mais quand il n'y a plus d'élections, on ne les voit plus.
Moi, ça me fait tellement mal de voir mes frères qui sont de Comores leur faire ça. Parce que personne au monde n'accepterait de voir sa famille ou sa mère amenotée comme ça. Un jour, d'après ce que j'attends parler de des enjeunés qui vivent en haut, un jour ça va arriver.
Après 1 à 2 jours en centre de rétention, des Comoriens sont reconduits à la frontière. Ce matin, 81 personnes doivent regagner leur pays d'origine. Comme Mohamed, il a 29 ans.
Vous étiez à Mayotte depuis combien de temps ?
Depuis septembre 2020. Alors la police des frontières m'a attrapé et m'a dit que vous êtes rejeté.
Hommes, femmes, enfants, c'est l'heure du retour forcé à bord de ce bateau affrété par la préfecture. Un sandwich et au revoir.
Donc juste le contexte de ces enregistrements. Le premier, c'est la sœur d'un prisonnier au local de rétention de Mtsapere. Donc c'est un local de rétention. C'est comme un centre de rétention, mais qui peut être un peu à n'importe où, dans un commissariat, etc. Et qui est créé par arrêté préfectoral, donc ils peuvent les créer un peu partout. Et là, notamment en ce moment avec Wambushu, ils en ont créé 6. Et je trouve assez parlant, le local de rétention de Mtsapere, il a été créé dans une MJC, une maison pour les jeunes et de la culture. Donc en fait, on voit bien la politique de l'État français aujourd'hui, c'est de totalement supprimer tous les accès à la culture et de remplacer ça par en fait, des lieux de déportation des gens. Le deuxième enregistrement, c'est un Mahorais qui habite dans un bidonville où une personne est arrêtée pour être expulsée et qui constate que il est frère avec l'autre personne et que en fait elle est expulsée et il trouve ça complètement dégueulasse. Et ça, c'est pour rappeler que malgré toute l'idéologie qui est véhiculée par l'État français que tous les Mahorais seraient pour et d'accord avec l'opération Wambushu, c'est faux. Évidemment, il y a plein de Comoriens Mahorais qui sont complètement contre ce qui est en train de se passer en ce moment. Et le troisième enregistrement, c'était issu d'un documentaire sur le centre de rétention de Mayotte. Et donc le centre de rétention de Mayotte, c'est le centre de rétention le plus grand de France. La moitié des expulsions hors du territoire français passe par le centre de rétention de Mayotte. Et c'est un lieu de rétention, donc déjà qui est une exception au droit, le droit des étrangers, on le disait. Mais en plus, c'est du droit d'exception dans le droit d'exception, puisque en centre de rétention à Mayotte, il est impossible d'avoir tous les droits qui sont censés pouvoir y avoir, notamment les référés, ils sont pas suspensifs, c'est-à-dire qu'on peut être expulsé avant de pouvoir faire un recours contre sa propre expulsion. Il est impossible ou presque d'accéder à l'association juridique, donc Solidarité Mayotte, elle s'appelle. C'est une association juridique qui est dans un centre de rétention qui est censée faire le suivi de vos droits. Et donc par exemple en 2022, cette asso, elle a vu que 3000 personnes, c'est-à-dire une personne sur 10 qui est passée par le CRA. C'est-à-dire que les 9 personnes sur 10 qui passent par le centre de rétention n'a même pas vu un défenseur pour ses droits. Alors que on le sait très bien, en France, quand une personne voit cette association-là pour défendre ses droits, de toute façon, c'est difficile de les faire aboutir. Donc on imagine bien quand c'est même pas possible de voir une association. Voilà, les conditions de rétention sont horribles, etc. Et il y a un bateau qui est affrété chaque matin et qui part du centre. Enfin, on part du centre de rétention vers le bateau chaque matin. C'est-à-dire avant même d'avoir vu un juge et un avocat pour pouvoir se défendre, on est déjà expulsé. Voilà pour un peu le contexte général.
Oui, moi j'ai vu que vous avez déballé tout, alors que chaque strophe, chaque sujet, c'est toute une dissertation. Parce que moi, quand j'entends la jeune fille qui se plaint que la police ne fait pas assez le travail, et quand juste avant, quand vous m'apprenez que un des conducteurs qui utilisait les démolisseurs des appartements, lui, il a succombé parce qu'il a eu une attaque quand il était en train de démolir sa propre maison. C'est dire combien les choses sont choquantes. Alors, cette même fait, c'est pas anodine, c'est pas isolé. C'est le lot quotidien des plusieurs Maorais, vu l'exceptionnalité de la système. Alors, du système. Alors, pour la jeune fille, il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu une des femmes qui aident ou qui sont là pour montrer qu'eux, ils sont avec la France, avec le système, et même, ils servent à recenser là où il y a des gens non désirés, des gens qui n'ont pas de papiers, et même souvent ils se permettent d'aller les déloger eux-mêmes en détruisant leurs abris, parce que c'est pas des abris, c'est souvent des maisons en fortune qu'ils font avec leurs moyens. Donc, et ils se plaignent que la police ne fait pas assez leur travail. Mais ces mêmes problèmes, on trouve que ces mêmes dégâts, on démolit une partie, voilà, leur bungalow, ces masures qu'ils ont construites avec leurs propres moyens. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'ai assisté à... quand on a démoli la maison de ma mère, moi étant jeune, et puis quand je me trouve dehors, je sais qui c'est qui a fait ça. La nuit, je vais m'en prendre à son bien. C'est ce qui s'est passé à plusieurs élus là-bas. Il y en a une qui avait tout son cheptel bovine ou des zébus là, et ses biens, des voitures et tout ça, on les a mis en feu. Toute une nuit, c'était parti en feu. Vous avez des exemples de ce type, c'est tous les jours. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est la même chose en 1975. Quand vous n'étiez pas d'accord avec ceux du séparatisme, et malheur arrive si vous allez à la police, si vous allez à l'administration pour aller vous plaindre. On vous conseille d'aller soit rejoindre l'autre camp, l'autre camp du séparatisme, ou alors eh bien choisissez votre monde, mais c'est pas ici. Donc vous voyez, et ces jeunes aujourd'hui qui sont soi-disant violents, ils ne répercutent que ce qu'ils ont appris dans leur vie.
Parce qu'ils ont vécu, en fait, ce que l'État leur fait subir.
Parce qu'ils voient que là-bas, une vieille dame peut s'en prendre à sa maman, ou à sa sœur, ou à n'importe qui, mais il a le droit de faire ça. parce qu'il a l'autorisation de l'État.
C'est ça, l'État en fait
il y a l'État
applique la
politique
violente.
Voilà.
Et du coup, ben,
vous voyez, les policiers, quand ils vont dans les quartiers, ils font des rafles. Eux, ils ne font pas de sentiments. Que ce soit des femmes enceintes ou je ne sais quoi, ils les arrachent. Et ces enfants, à bas âge, ils voient ça. Ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Maintenant, ils ont grandi. Et ils savent que maintenant, pour se faire une place, il faut être violent. Comment ils vont faire ? Tu viens démolir ma maison, moi, pour essayer de... Voilà, je vais démolir le tien. Et donc, c'est ainsi que la France se maintient là-bas pour véhiculer ça. C'est-à-dire que séparer les Comoriens, je vous jure, ça fait plus de 56 ans, 57 ans que nous sommes soi-disant indépendants, mais on ne l'est pas, ou 47 ans. Et c'est les mêmes, juste c'est les époques qui changent. Ceux qui ont été victimes hier ne sont plus de ce monde, mais c'est les enfants, voilà. Et donc, c'est ça en fait, c'est ça. Même ceux qui sont censés être là-bas, croyez être à la protection, ne le sont pas. C'est ça le problème, le drame que subissent les Comoriens.
Et en parlant
si
des...
on en tue 4, 5, 6, 10 en Joanais, mais à Mayotte là-bas, ce sont les violences urbaines, hein, des quartiers entiers qui sont brûlés. Parce qu'il y a des jeunes désœuvrés et qui n'ont pas de repères, à qui on a arraché leur maman ou leur papa. Hein, ça dépend de la situation, etc. Donc voilà ce que c'est le visage de la France là-bas aux Comores.
Mais il y a une autre violence de l'État, en dehors de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur les décasages et les expulsions. C'est, tu le disais toi-même, Mohamed, il n'y a pas de frontière. En fait, l'État essaie de créer artificiellement une frontière, ce qui fait qu'en fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent dans la mer. Il y a plusieurs estimations. Il y en a qui disent environ 20 000.
Lui, Nicolas Ronsard, il parle de 20 000. Nous autres, nous, quant à nous, nous pensons que non. Ça, c'est... Non, disons qu'il dit qu'en 2011, l'État français, lui, il dit ce qui est en quelque sorte officiel. Si quand la France dit quelque chose, ça a l'air ce qu'on appelle parole d'évangile. Non. Lui, il dit qu'en 2011, c'est 10 000 qui est reconnu par la France. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent que 10 000.
Non, mais en vérité,
c'est
beaucoup plus.
Mais déjà, rien que ça, 10 000 en 2011. Mmh. Donc, de 1995 à 2011. Ensuite, à partir d'actuellement, lui, il parle, le sociologue, il dit que c'est 20 000. Donc, mais nous savons que, par exemple, il y a une autre sociologue qui parle, par exemple, on peut estimer, puisqu'on on prétend que Comores est environ 800 000. On sait que c'est pas vrai, ça c'est pour mentir. On doit être 1,5 million à 2 000, à 2 millions. Mais l'essentiel, c'est que, supposons, on prend les 800. Avec les 800 000, lui, il fait que, en quelque sorte, on va dire actuellement, avec ces statistiques, on peut arriver facilement à 80 000 morts. Oui, il n'y a pas de souci.
Et du coup, c'est assez important ce qu'on dit. Et au-delà des chiffres, en fait, c'est des vécus de personnes où, en fait, leurs proches, leurs parents, etc., décèdent en mer, ce qui est extrêmement horrible. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'une personne. Alors, moi, je comprends pas la langue, mais vous allez traduire pour nous après. Il y a une personne dont les parents sont morts en mer qui raconte son vécu.
Oui. Après, moi, j'ai mordu à eux. Yani wamisi ndone ya vimba bora jeta ka dunia kwa ila mwabako mabora jeta ko vive kwa ma jeta bora jeka tifu yani ya tuka tifumu wako umeze wamonu maankesa papa mnu afiki amtashinana juwa kante mayayi wa mtu avingo mtu na babayi wa mtu amtashinana juwa la daya mayayi wa mtu na babayi wa mtu kante avingo mwana kwa ili mano nunu kalite zini mpisi nuna ali nambana ta kalite zini biwa mti bandu wala mti ribwa minyo sabi anjusto li zini chongo kwa mwamina tuwenza nkina wama yangu na baba angu sana mwujua shuza zini chopaniki nifikiri wanyo wawo aprezo nchapaniki so mbagali katika na wama yangu na baba angu ni tatuwa na maanshani mwamisi mayangu kasina pape mwamisi kasina renji tumezi apra mwamina fikiri kalite zini biani amlo tsambia shuya Ya passé au MSB, au cash noir et guette, na was de la smara par le beau cash noir et guette. Après, on nous jambe comme ça.
Oui, en fait, ce jeune, franchement, ce qu'il dit, ce qu'il a commencé à dire, c'est que est-ce qu'il valait la peine d'être en vie? C'est que c'est de naître déjà pour lui, c'est un contre-nature, parce que pour lui, ce qu'il est en train de vivre, il devrait pas être, il devrait mourir, au moins il serait soulagé, il serait voilà. Et il rajoute un peu plus loin, mais j'imagine ce que peut être l'amour de connaître, ne serait-ce que connaître une maman. Une maman, ou est-ce que cet amour, est-ce qu'on ne serait pas bien de connaître si on avait un papa? Donc tout ça, ça c'est une raison qui fait que moi, j'ai pas d'espoir, j'ai pas de raison de vivre. Moi, je ne suis rien. Qu'est-ce qui m'arrête? Qu'est-ce qui fait que de moi que je suis quelqu'un? De tout ça, j'ai jamais connu une tendresse quelconque, etc. Donc, ce sont ces mots-là. Quand vous les entendez, ils le disent
c'est
à quoi
ça. Ouais. Exactement. Oui, c'est ça.
Donc, voilà, c'est en résumé, c'est ce qu'il a dit.
Et ils sont partis. Il me reste de les rejoindre. Voilà. Si j'avais des parents, je n'aurais pas cette situation.
Voilà, il a dit voilà.
C'est ça où la politique de l'État français, la violence de l'État français, en fait, elle est vraiment catastrophique. Elle est extrêmement catastrophique.
Mais le problème, c'est que ceux à qui on fait subir ne se rendent pas compte. Ce qu'on leur a dit, si vous voulez être, regardez, les vieilles, moi, ma grand-mère à l'époque, si on les a fait signer des accords. Sur une ligne de ce qu'on leur a fait signer, ils ne savaient aucun mot de tout ça. Tu crois qu'ils ont signé ou s'il y a signature, il y a. Est-ce que c'était consentant? Hein? Même moi, ça fait plus de. Je vais avoir 30 ans depuis que je suis ici. Comme je n'ai jamais été à l'école, ça se voit, la locution, que le français n'est pas fluide. Comme ceux qui étaient nés ici ou qui sont français, etc. Vous voyez? Donc, c'est le cas de mon grand-père, qui voit un bateau, un ferry, qui vient accoster et qui vous appelle. Bon, voilà, vous venez à poser votre signature. Et même, on vient vous informer de la décision qui a été prise. D'être offert un territoire, parce que pour eux ils avaient des calculs. Bon, déjà à l'époque on ne pouvait pas dire non, parce que c'était l'époque du traité négrière. On vient vous choper, on vous embarque, on va vous vendre, ouais. On va vous soupeser comme des zébus si vous avez une masse une corpulence, voilà. Et bien, si vous avez de la chair, vous avez un peu plus de la valeur, on allait vous vendre.
Ou alors,
on allait vous exploiter dans les mines. Tout ce que vous voyez ici, les monuments qui sont ici, les caniveaux à l'époque, on utilisait du charbon. Il n'y avait pas de ce qu'on a ici aujourd'hui. On a de l'uranium qui permet d'utiliser le nucléaire. Mais là-bas, c'était les êtres humains. Et là-bas, on nous fauchait pour venir ici nous vendre, nous exploiter. Et maintenant, quand on a fini de comprendre, maintenant on s'est industrialisé et qu'on n'a plus besoin de faire venir des gens ici, des main d'œuvre, eh bien, on va là-bas, on va les expulser de chez eux là-bas. Vous voyez? C'est le même pays. Il avait, à un moment donné, une autre méthode d'exploiter. Il allait prendre des gens pour venir les vendre. Et maintenant, il va sur place là-bas pour vous dire non, non, vous n'avez pas droit de citer, c'est pas chez vous ici. Allez-y ailleurs.
Mais c'est
vous
là
imaginez,
c'est là
ça dépasse l'entendement.
C'est là où il y a une continuité depuis des siècles, en fait, entre l'esclavage et la colonisation. Ah oui. Et que, on le voit encore aujourd'hui, en fait, il y a encore des restes de ce monde.
C'est juste, on s'adapte de l'époque, mais c'est les mêmes pratiques.
Mais ça, moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose. C'est ça, pour les citoyens français, c'est important qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas toujours continuer à penser que bon, ça se passe comme ça, comme ailleurs. Nous avons une responsabilité en tant que citoyens. Nous, en tant que, bien sûr, de Comores, nous, ça nous touche plus. Donc, il est tout à fait bien placé, mieux indiqué pour pouvoir exprimer les choses. Mais en réalité, tout citoyen a cette responsabilité. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. C'est important que nous sachions que là, en ce qui concerne l'opération Mbouchou, on a dit, on a expliqué ici tout à l'heure que même les centres de rétention, où on sait qu'ici nous les dénonçons parce que c'est inhumain, mais là-bas c'est autre chose. Mais comment on peut comprendre ça? Hein, donc, c'est, il me semble que tout ce que fait courte échelle au niveau des prisons, mais là, c'est une émission spéciale pour, en plus, amplifier le fait que même sur ce qu'on considère comme étant officiel, de droit, tout ça, c'est même pas respecté ailleurs parce qu'on les méprise. Oui.
Et pour, parce que le temps file, pour finir sur la question des prisons, on n'a pas assez parlé de Magicavo, donc la prison de Magicavo.
D'accord.
Moi, je vous propose d'écouter trois enregistrements. Donc, le premier, c'est le témoignage d'un prisonnier de Magicavo qui est en bracelet électronique. Le deuxième, enfin, qui sort de la prison et à qui on a mis le bracelet. Le deuxième, c'est un prisonnier de Mayotte qui a fait 14 ans de prison et qui raconte les conditions de vie à l'intérieur de la prison de Magicavo. Et le troisième enregistrement, je vous préviens, c'est pas des copains, c'est Mayotte Première, donc le média officiel de l'État français à Mayotte,
oui,
qui parle d'une révolte dans la prison de Magicavo.
Je passe dans la même cellule et tout. Parfois, tu te trouves, il a mal au ventre, il veut rentrer aux toilettes. Moi, je veux manger et tout. Il faut que j'attende. Et parfois, si j'attends de prendre sa douche et tout, je peux pas manger et tout. Parfois, ça dégoûte, je veux pas manger. C'est trop difficile d'être là-bas. On est loin de sa famille. Moi, comme quoi, on n'est pas bien là-bas. On mange pas bien, on dort pas bien. Parce que là, j'avais mon projet, là, c'est tout parti en couille. Du coup, là, même ici dehors, ici, je peux rien faire parce que je suis toujours enfermé. Toujours enfermé. Je peux pas aller là, j'ai des rendez-vous à la Croix-Rouge, je peux pas y aller à la Croix-Rouge.
Quand on est là-bas, on entend ce qu'ils se disent dehors. Ça fout la rage. Ça met en colère. Parce que c'est pas du tout la réalité. Il y a une grande différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'ils se disent à l'extérieur. On y mange, mais comment ? Juste pour ne pas mourir. En prison, on est comme un paquet. Comme un paquet qu'on a donné à quelqu'un, vous me gardez mon paquet jusqu'à ce que j'en aurai besoin. C'est tout. Vous n'avez même pas votre propre nom. On vous appelle par des numéros. Un exemple que j'aime beaucoup souvent donner. Parce que ça paraît peut-être dur, mais c'est réalité, ça, la réalité. En prison, on est comme une chèvre. Ben ouais, ça fait rire. La chèvre, on lui met la corde, on l'attache, et à un moment donné, on la détache pour l'attacher à un autre endroit. Parce que vu ce que j'ai vécu à l'intérieur, je ne souhaite pas que les jeunes de Mayotte leur arrive la même chose.
C'est un paquet jeté dans la cour de la prison depuis l'extérieur qui est à l'origine de la révolte. Ce dimanche après-midi, une trentaine de détenus se trouvent dans la cour de promenade, derrière cette enceinte, lorsqu'un individu situé à l'extérieur y jette un colis. Des gardiens interviennent pour fouiller les prisonniers et récupérer l'objet. Ils se heurtent à des hommes ultra-agressifs. Il faudra 3 heures et l'intervention des gendarmes pour établir l'ordre, mais le colis a disparu. Les gardiens craignent que des armes soient introduites par ce biais. Des filets devraient être installés pour empêcher ces livraisons clandestines, mais toujours pas de travaux en vue.
Et bon, avant de réagir sur les témoignages des deux prisonniers, je voulais juste révoquer la question de la révolte, donc qui avait lieu en 2022 à Magicavo. Cette révolte, donc, elle a impliqué l'intervention des gendarmes. Contrairement, en fait, en France métropolitaine, il n'y a pas des RIS, c'est-à-dire l'équivalent du GIGN, mais pour les prisons. Il n'y a pas des RIS à Mayotte. Et du coup, c'est les gendarmes qui interviennent, comme dans les années 70, c'était les CRS qui intervenaient dans les prisons françaises quand il y avait des révoltes. Voilà, là, c'est les gendarmes qui sont intervenus. Évidemment, il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de fouilles des matons. Donc, et beaucoup de prisonniers ont été transférés. Il y a eu aussi 4 personnes qui ont été désignées évidemment comme meneurs, qui ont pris de la prison ferme en plus, sans aucune preuve qu'ils étaient meneurs. En tout cas, c'était leur défense avec leur avocat. Et donc certains ont été transférés, quand on dit des transferts à Mayotte, c'est pas n'importe quoi, c'est des transferts à La Réunion, donc à plusieurs centaines de kilomètres, voire en métropole. Donc il faut imaginer, après, pour la famille, pour pouvoir rendre visite, etc., c'est catastrophique. Et j'évoquais en fait cette question de la mutinerie parce qu'en fait il y a un truc très important qui se passe notamment en ce moment avec le contexte de Wambushu, c'est que l'État français il prétend que la prison de Majicavo, il y aurait pas trop de problèmes, qu'il y aurait pas de révolte, que les prisonniers seraient calmes, etc. Bon, bien sûr, ça marche pas quand il y a une révolte comme en 2022, mais c'est aussi que en fait il y a des troubles, etc., ils sont obligés d'admettre que en fait les conditions sont inhumaines, etc. Et par exemple, il y a une autre révolte qui n'a pas fait bruit du tout et qui était en février 2023, donc c'était quelques semaines à peine avant l'opération Wambushu, très médiatique. Mais on voit des collégiens de Majicavo qui, depuis leur salle de classe, sont en train de filmer en fait une mutinerie qui est apparemment en train de se faire réprimer. Il y a plein de fumée, donc c'est probablement des gaz à lacrymogènes. Et on entend des cris et des tirs à plusieurs centaines de mètres, donc l'école est à plusieurs centaines de mètres de la prison. Voilà. Et pour juste finir là-dessus, il y a des ERIS qui sont pendant l'opération Wambushu, il y a des ERIS, donc le GIGN dans les prisons, enfin l'équivalent du GIGN. Ils ont dépêché des ERIS, ils ont pris des ERIS de la France métropolitaine, et ils ont envoyé à Mayotte si jamais il y avait des révoltes pendant ces opérations-là. Voilà.
Oui, en fait, moi je sais que. Dans ces conditions, des États qui veulent se maintenir, quoi qu'il en coûte, ils ne lésinent pas avec les moyens. De toute façon, ils ont le droit, ils s'octroient le droit, déjà les droits humains. Le droit de bafou, parce que c'est la loi de la jungle, parce que eux, ils considèrent que les sujets qu'ils sont en train de traiter, ce sont des sujets qui n'ont pas de valeur. Moi, rappelez-vous qu'on est en l'an 2013, l'an 2023, et le président de ce pays, qui s'appelle Emmanuel Macron, il n'a pas hésité à nous traiter des poissons, des bétails. Alors, qu'est-ce qu'il nous a... Il a dit, quand il était en Bretagne, entre discussions, il avait dit que les embarcations qu'empruntent les Comoriens, et les Kwasa-Kwasa, il a dit, les Kwasa-Kwasa pêchent peu, mais amènent du Comorien. Du Comorien, ça veut dire on est du, soit du poisson ou des choses. Ça, ce sont les éléments qui montrent que si on envoie des escadrons de la gendarmerie ou de police, et si d'aventure il y a un indigène qui veut ne pas se mettre sur le droit chemin ou qui veut embêter un petit peu le travail du fonctionnaire de police, de se faire dans des conditions pas très vraiment embêtantes pour le fonctionnaire, eh bien il va pas hésiter à le zigouiller, à l'assassiner. De toute façon, ce n'est qu'une chose, parce que le président en a fait la démonstration. Ça, c'est un premier sujet. La deuxième, quand je reviens sur ce que vous avez tout à l'heure fait montre des centres culturels qui a été transformé à des centres de rétention
ou à côté.
Non, mais ils ont fait ça parce qu'il fallait des locaux, alors qu'ils n'avaient pas assez investi pour justement ne serait-ce que outiller les enfants. Des outils pédagogiques ou des écoles ou des centres de formation qui leur permettent d'aller se bouquiner, ou etc. Donc, même si on a eu l'audace ou on a eu le courage ou la volonté peut-être de vouloir le faire, mais tellement que les choses sont là et qu'on choisit de les transformer en centre d'enfermement des jeunes. Ces mêmes jeunes à qui on a construit des locaux pour qu'ils s'éveillent, pour qu'ils, ça permet en tout cas de faire, de se construire ou de s'instruire. Et à un moment donné, on va le transformer en enfer, on va les emprisonner dedans, alors que c'était censé être autre chose. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner et montrer combien là-bas, c'est un état exceptionnel où la France se manifeste, mais vraiment à d'autres couleurs que ce que il semble bien vouloir le faire ici, le défenseur de tous les droits de l'homme, etc. Ça, c'est une première chose. Mais le fait que à Magicavo, le jeune là qui chantait que ils ont, c'est-à-dire que c'est comme si il est en train de montrer que eux, on les a envoyés, c'est-à-dire les gens qui ont incité à la gendarmerie, bon, c'est les gens qui sont pour, parce que là-bas on a fait deux blocs, ceux qui sont en face qui sont légitimes, légales, qui peuvent vivre, qui ont le droit de vie, et d'autres qui ne l'ont pas. Et ceux qui sont qui sont emprisonnés par exemple, ou qu'on a emprisonnés pour une raison ou une autre, qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Ce sont des jeunes souvent non expulsables parce que ils savaient qu'ils ont ce droit-là, le droit de naître, le droit du sol. Donc du coup on ne peut pas justifier de comment, pourquoi on va l'expulser, on va l'amener où? Vous voyez, souvent ils n'ont rien, aucun repère. C'est quelqu'un qu'on a arraché de sa maman, qui n'a même pas été enregistré dans n'importe quelle administration. Hein? Donc, il se trouve qu'ils sont là. Et qu'est-ce qu'il il dit? Eh bien, c'est comme si on les a repoussés. C'est que comme ils se montrent déjà prêts à attaquer n'importe qui va venir. Même s'ils n'ont rien, mais c'est comme ça qu'il est en train de chanter là, la chanson là. Ils nous les ont envoyés, mais on les a repoussés, et deux, on les a envoyés dos à dos, tu vois,
et ouais.
C'est-à-dire, et ceux qui les ont envoyés, les donneurs d'ordre, et ceux qui ont été censés venir les matraquer, la police, etc. Donc ça démontre combien le danger, le feu, ou tous les ingrédients qui fait que il y aura pas de la vie. Et je vais dire de la paix aux Comores, surtout à Mayotte, tant que la France ne se mettra pas en question. Parce que la France continue à faire ça, mais malheureusement, la nature a fait que, regardez, les conditions des autres îles font que, aujourd'hui, depuis. Je voulais dire que tout ça, c'est parce que il y a un déséquilibre démographique qui s'opère dans les îles, et ça c'est dû à la gestion politique de l'ensemble des îles, parce que c'est la France qui a les mains sur les autres trois parties et sur le tiers sur l'autre partie, et ce qui fait que la concentration des êtres humains sur l'autre, c'est dû à cette gestion politique que la France ne veut pas se remettre en cause, parce que la France va imposer des gens qui n'ont rien à voir avec le consentement des peuples. C'est juste qu'ils sont là pour expédier ou justement pour faire les besoins de la colonisation française.
Sur ces mots, on va devoir s'arrêter. Malheureusement, il est déjà 18h.
Ah oui.
Merci beaucoup d'être venu discuter avec nous des centres de rétention, de la prison de Magicavo, de la situation à Mayotte qui est vraiment catastrophique. N'hésitez pas à écouter toutes les semaines l'émission qui commence à 16h30 jusqu'à 18h30.
Oui.
Après, vous poussez un peu après des fois.
Oui.
Et nous, on va continuer les 6 heures d'émission. On va basculer sur l'antipsy, c'est ça? s'il ne me trompe pas. Et juste avant de clore ce chapitre, tu parlais de la chanson avec le rappeur qui disait « Les gendarmes sont venus, on a résisté, on les a humiliés ». Le nom de ce rappeur, il s'appelle Gia, et il dénonce beaucoup dans ses chansons les décasages, la violence des gendarmes, la politique de l'État français à Mayotte. C'est un rappeur de Mireréni, donc c'est au centre de Grande Terre. Donc on va l'écouter et puis on se retrouve sur l'Antipsy.
Et merci beaucoup à l'émission L'Actualité des Comores pour nous avoir accompagnés et nous avoir laissé ce créneau. Ouais, merci,
c'est super
chouette. Encore à vous.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Galère.
Solution basse, t'en as la lettre le moro.
En chant de guerre, de voici, en sur la route, de voici, d'Akonao, de voici, d'Amaoré, de voici, en chant de guerre, de voici, en sur la route, de voici, Malisao, de voici, d'Amaoré.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, sur Radio Piquez, sur La Clé des Ondes à Bordeaux et sur Radio d'ici à Annonay. Vous écoutez ce direct qui a commencé à 17h, donc contre les violences pénitentiaires, contre l'isolement et contre le mitard, en soutien à toutes les prisonnières et à tous les prisonniers, toutes les personnes enfermées. Et d'ailleurs, on va bientôt parler d'enfermement en milieu psychiatrique. Et avant ça, par contre, vous pouvez nous envoyer vos dédicaces par SMS pour toutes les personnes qui sont enfermées, par et pour. Donc le numéro pour les dédicaces, c'est le 07 53 41 35 29, 07 53 41 35 29. Et une première dédicace, c'est pour Mika qui est à la centrale d'Arles et qui nous entend depuis Marseille. Pour Mika à la centrale d'Arles, pour mon amour éternel envers Michael, et ben on écoute tout de suite Ed Sheeran avec Eyes Closed. Et voilà, c'est de la force à toutes et à tous. Et celle-là, c'est pour Mika, spécial dédicace. On se retrouve dans quelques secondes avec l'Antipsy.
It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my ay 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 ay. Here again, and I think you'll come home soon. But what brings me right back in? Then it's only me that's in this room. I guess I could just pretend the colors are more than blue. But I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my ay, 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 ay.